Bonjour à tous. Donc, après quelques chroniques consacrées aux historiens de Domfront, nous entamons une nouvelle série aujourd'hui consacrée aux documents. Documents qui concernent l'histoire de Domfront, bien sûr. Donc, Domfront a une histoire particulièrement riche. Des personnages importants en ont été les seigneurs, hein, les ducrois anglo-normands, les rois de France ou des membres de leur famille, des cousins apanagés. Et évidemment, des personnages aussi importants avaient des chancelleries qui émettaient des documents, et ces documents sont plus ou moins bien préservés. Or, le document, c'est la base de la connaissance historique, avec l'archéologie, bien sûr, mais même si tous les vestiges avaient totalement disparu, par exemple au château, même s'il ne restait plus rien, il resterait quand même des documents pour faire l'histoire de Domfront. Alors, quels documents, de quelle époque, c'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui. Alors avant toute chose, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle les documents de première main et ce qu'on appelle les documents de deuxième main. Les documents de première main sont les originaux. Voilà. Donc quand on a la chance de retrouver un original, a priori il ne ment pas, c'est bien lui. Alors sauf évidemment, il faut l'analyser pour voir si il n'a pas été trafiqué à l'époque, hein, à l'époque de sa rédaction, ou s'il ne contient pas des erreurs, mais ce seraient des erreurs d'époque. Les documents de deuxième main, ce sont des copies ou des utilisations plus tardives. Ou même éventuellement ce qu'on appelle des sources imprimées, c'est-à-dire que des gens ont vu le document et l'ont imprimé. Donc ce n'est plus l'original, et évidemment, il y a toujours le risque qu'il y ait une erreur, qu'on ait mal recopié, ou qu'on ait recopié intentionnellement ou inintentionnellement, ou avec une erreur, ou des choses comme ça. Donc, le document de première main vaut toujours mieux qu'un document de deuxième main. Alors, ces bonnes choses étant dites, quel document? Alors, il faut bien comprendre que, avant le XIIIe siècle, on va dire, ils sont quand même très, très, très rares. On a, pour les premiers siècles, Domfront, bon, l'histoire de Domfront, ça commence aux alentours de l'an 1000, hein, pas avant, avec la fondation attribuée à Guillaume de Bellême. Il n'y a pas de document authentique, à ma connaissance, qui ait survécu de ces époques-là. Et on ne retrouve que alors, soit des mentions dans des chroniques, et encore les chroniques, moi, personnellement, j'ai pas vu les originaux. On voit des choses imprimées à partir de copies qui sont éventuellement de tel ou tel siècle, hein, des fois du 19e, qui a recopié une copie du 18e ou du 17e, qui elle-même a recopié peut-être quelque chose du 16e, qui elle-même a peut-être copié l'original. Et plus il y a de copies, plus il y a d'erreurs possibles. Donc c'est surtout pour les 11e, 12e siècles, des mentions dans les chroniques, par exemple dans l'histoire ecclésiastique d'Ordéric Vital, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas seulement une histoire religieuse, mais est en fait une histoire du duché de Normandie, hein, purement et simplement. Et les quelques récits qu'on a sur les Bellèmes, la famille de Bellèmes, en proviennent. Idem d'ailleurs pour Henri Beauclerc, hein, tout ce qu'on sait sur la prise de possession de Domfront par Henri Beauclerc vient essentiellement d'Ordéric Vital. Pour les Plantagenêts aussi, hein, on repose aussi beaucoup sur les chroniques, la chronique de Robert de Torigny par exemple, mais on commence à avoir quelques documents, quelques comptes, au sens comptabilité, hein. Quelques actes passés à Domfront, qui ne concernent pas forcément Domfront d'ailleurs, hein, mais le souverain peut dire, voilà, j'ai pris telle mesure en faveur de je sais pas moi, de la léproserie de Beaulieu près du Mans, mais il était à Domfront quand il l'a fait. Donc on sait qu'il était à Domfront ce jour-là. Donc ça prouve au moins la présence du souverain. Alors ces quelques documents, notamment les documents comptables, ont été retrouvés. Il y en a qui sont en Angleterre. Et ils ils ont été retrouvés au 18e, des fois dès le 18e siècle, parce qu'il y avait déjà des chercheurs, des premiers chercheurs à cette époque-là. Et ils ont été publiés au 19e siècle dans les mémoires de la Société des antiquaires de Normandie. Et donc on a des archives qui étaient détenues à la Tour de Londres, notamment sur la présence d'Aliénor d'Aquitaine ou de Richard Cœur de Lion à Domfront, des documents concernant la saucerie, enfin qui se trouvent là-dedans. On a également quelques documents d'abbaye. Alors dans notre coin, les abbayes, c'est Savigny et Lonlay. Alors Lonlay, quasiment tout est perdu. On a des copies modernes. Et pour l'abbaye de Savigny, il reste quelques documents. Mais enfin, pas beaucoup, 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 beaucoup. Faut bien comprendre que le document, à cette époque-là, il est rare. Le document, c'est sur parchemin. Le papier existe, mais honnêtement, c'est absolument exceptionnel. Et en plus de ça, c'est rarement bien conservé, ces choses-là. Donc, ce sont des parchemins, et honnêtement, on n'en a pas beaucoup, beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, ça se développe à partir du XIIe siècle. Alors, ce n'est pas propre à Domfront, hein, c'est partout. Et même les archives royales, même chose. Hein, ça se développe à partir de la fin du XIIe et surtout et au XIIIe siècle. Donc, on a quelques documents de Philippe Auguste, de son fils Philippe Urpel ou de Saint-Louis, conservés soit sous forme d'originaux, soit sous forme de copies. Mais bon, je ne vais pas faire évidemment ici toute la liste. Le premier gros paquet de documents qu'on a, et c'est lui qui va nous occuper pour aujourd'hui, et encore, on ne va pas finir. Ce sont les documents de Robert d'Artois, Robert II d'Artois. Alors Robert II, il est comte d'Artois, c'est le fils de Robert Ier, et Robert Ier, c'est le fils du roi Louis VIII et le frère de Saint-Louis. Et comme le domaine royal s'est considérablement agrandi depuis Philippe Auguste, les rois de France se sont permis de donner une partie, de concéder à titre temporaire une partie du domaine royal à leur fils cadet, ce qui s'appelle un apanage. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de descendants, ça revient au domaine royal. Donc, Robert II d'Artois, c'est le fils donc de Robert Ier. Robert Ier, il n'a jamais été seigneur de Domfront, il est mort à la croisade. Et Robert II est né, excusez-moi, juste à peu près, on ne sait pas s'il est né juste avant la mort de son père ou juste après, enfin, ça va être limite, limite. Et Domfront lui est donné par Saint-Louis, alors on ne sait pas quand exactement, on suppose que c'est 1259. Parce que c'est la date de ses fiançailles avec une dame qui s'appelait Amicie de Courtenay, à moins qu'il lui ait donné en 1262, qui serait la date cette fois-ci de son mariage. Alors Saint-Louis était passé à Domfront en avril 1255, il revenait d'un pèlerinage au Mont-Saint-Michel, donc ça c'est certain. Et il n'y avait pas les seigneurs de Domfront, Philippe Auguste avait donné ça à son fils Philippe Urpel, les descendants de Philippe Urpel étaient morts, donc Domfront, la terre de Domfront, la châtellenie de Domfront était revenue au domaine royal. Donc Saint-Louis, c'était chez lui en quelque sorte, ça faisait partie du domaine royal, et donc peut-être que quelques années plus tard, il s'est souvenu que, tiens, au fait, Domfront, là, ce petit truc, cette petite terre, ce petit domaine dans lequel je suis passé et qui m'appartient, ben, je pourrais m'en servir pour mon neveu, Robert II d'Artois. Et pourquoi? Pour établir les bases du douaire de son épouse. Et puis son épouse, elle était déjà possessionnée en Normandie, parce qu'elle possédait déjà Conches et Nonancourt. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le douaire? Le douaire, c'est la portion des biens du mari réservée pour son épouse au cas où elle, lui, survivrait, où elle deviendrait veuve. Il faut que la veuve continue à avoir des revenus, hein, il faut qu'elle ait les moyens de vivre, et donc elle a une part des biens de son mari, et la coutume de Normandie la fixait au tiers. C'est comme ça. Et puis, chose très importante pour nous, la veuve peut transmettre ça ensuite à ses enfants, enfin, aux enfants de son mari décédé et d'elle quand elle-même sera décédée. Alors justement, puisqu'on en parle, il est bien possible que ce soit 1262 parce que la veuve de Philippe Urpel, justement, était morte à cette date et elle avait conservé des droits dont Fonds faisait partie de son douaire, justement, et comme elle était morte en 1262, eh ben, ses droits s'éteignaient et le roi de France de l'époque avait toute latitude pour... Il n'avait plus personne à préserver sur place et donc il pouvait redonner ça à qui il voulait, s'il avait envie de le donner, et donc il l'aurait donné à Robert d'Artois. Bon, pourquoi tout ça? Tout ça parce que, bah, figurez-vous que les documents de Robert d'Artois, il en reste beaucoup. Parce que Robert comte d'Artois, il avait une... C'est pas n'importe quoi, hein, c'est un grand seigneur, c'est un cousin de roi de France, hein, c'est quand même très très haut dans la hiérarchie. Il a une chancellerie et ses documents ont été passablement bien préservés. Et le fonds des archives d'Artois à Arras est assez, le fonds médiéval est assez considérable. Et là-dedans, on a beaucoup de documents concernant Domfront. Alors évidemment, ça surprend toujours les gens. Ah, pourquoi Domfront, alors que c'est le comte d'Artois? Ben, c'est pour ça, parce que Domfront lui a appartenu jusqu'à sa mort. Alors, ça commence en 1269, le plus ancien, mais en fait, ils sont très rares pour les premières années. On va voir qu'ils se concentrent tous à la fin de la période. Alors le regretté Gérard Louise, dont nous avons déjà parlé dans les historiens de Domfront, qui avait, je vous rappelle, professionnellement été nommé à Arras comme professeur et donc qui avait pu aller facilement aux archives d'Arras. Alors c'est pas lui qui les a découverts en premier, hein, ils étaient connus depuis avant. Enfin, il a bien fait le tour de la question, lui. Et il a repéré 235 documents concernant Domfront aux archives du Pas-de-Calais. Et tous, sauf 8, sont de la période de Robert II. Et on a rajouté depuis 3 documents importants qui se trouvent aux archives nationales dont j'aurai à reparler. Et sur les 235, il y en a 196 qui concernent la période 1299-1302. C'est-à-dire, 1302, c'est la mort de Robert d'Artois. C'est-à-dire 83,4%. Concentré donc sur une période de combien j'ai dit de 3 ans ou 3 ans et demi. Hein. Alors, c'est quoi ces documents? Bah, ce sont quelques actes de gestion courante. Mais le plus souvent, la grande majorité, 137 je crois, c'est-à-dire 60%, ce sont des mandements payés. Moi, Robert, comte d'Artois, je vous ordonne de payer à telle somme, à machin, ou à truc, ou à bidule pour telle ou telle cause. Et surtout des quittances de gages. Alors là, c'est dans l'autre sens. Hein, je reconnais avoir reçu, moi, mais, reconnais avoir reçu mes gages pour la période de A. De petits officiers. Alors, il faut pas. Officier n'a rien de militaire au Moyen-Âge. Un officier, c'est quelqu'un qui est détenteur d'un office. Donc, on dit bien encore de nos jours un office notarial. Hein. Bon, donc, ce sont des verdiers, c'est-à-dire des gardes forestiers en chef, hein, des sergents des forêts, des gardes du haras, des sergents à verge, ce qu'on appellerait de nos jours la police municipale. Enfin, bon, bref. Donc, ce sont des gages d'officiers locaux, des pensions, des remboursements de frais, des remboursements d'emprunts. Plus rarement, mais c'est important, des frais de séjour du couple comtal quand le comte d'Artois vient à Domfront, j'en reparlerai. Parce que, bon, il est rarement à Domfront. Hein. Il est à Arras, il est à Paris, ils sont à la cour du roi de France, ils sont dans leur apanage là-haut, ils sont rarement à Domfront. Et puis, le très intéressant pour nous, évidemment, ce sont les travaux. quand ils font des travaux, parce que ça nous permet de savoir quels étaient les bâtiments au château. Et on aura à reparler longuement de ces comptes de travaux.
Alors, parmi tout cela, les plus intéressants et les plus importants, ça serait lesquels?
Alors, on n'aura pas le temps de les voir aujourd'hui, on va se contenter de les annoncer, hein. Les plus importants sont les fragments de comptes des baillis qui représentent Robert d'Artois à Domfront. Hein, je n'ai pas d'équivalent, l'équivalent du, je sais pas moi, du préfet actuellement, ou du quelque chose comme ça, qui rendait des comptes à l'Ascension, toutes les Ascensions et toutes les Toussaints, 2 fois par an. Il en reste complet ou incomplet 8. Alors c'est pas beaucoup, mais d'un autre côté c'est quand même pas mal. Et l'enquête qui a été menée contre un des baillis qui s'appelle Jean de Carcassonne en septembre 1292. Donc nous verrons ça dans une prochaine, dans la, à la prochaine chronique pour rentrer un petit peu plus dans les détails.